J'ai intitulé ce message « Vivre dans un monde sans Dieu » tout en étant conscient que, du fait que nous vivons dans un monde avec Dieu. Il s'agit de voir un petit peu ce que Jésus a dit concernant la fin des temps, ce que la Bible appelle plus ou moins toujours la fin des temps, c'est-à-dire cette période de l'histoire où on peut le penser, d'après les textes de la Bible, nous vivons maintenant cette période de l'histoire qui annonce le retour de Jésus. J'ai intitulé ce sermon « Vivre dans un monde sans Dieu » parce que, d'après Jésus, l'un des problèmes qui se manifestera à la fin des temps, c'est que les gens vivront de plus en plus en oubliant que Dieu existe. Bien sûr, les chrétiens en sont pleinement conscients, à tel point que le texte que nous avons lu il y a un instant nous dit que cette question a été posée par les disciples de Jésus à Jésus parce qu'ils voulaient savoir quand le royaume de Dieu viendrait. Au début de ce texte, nous lisons que ce sont les chefs religieux qui ont demandé à Jésus quand viendrait le royaume. À la fin de l'évangile de Luc, nous lisons que avant que Jésus ne remonte au ciel après sa mort et sa résurrection, ses disciples à lui lui ont demandé « Seigneur, quand va venir ton royaume ? Quand toutes choses vont-elles être rétablies ?» Il semble bien que c'était une grande préoccupation des gens à l'époque, et je dois dire que c'est toujours une préoccupation, peut-être pas des gens en général, mais des croyants en particulier. J'ai grandi moi-même dans un foyer chrétien, mes parents étaient déjà des chrétiens quand je suis né, et pendant toute mon enfance et ma jeunesse, je dirais plus ma jeunesse, parce que pendant mon enfance, j'étais moins attentif à ce qui se disait à l'église. Et pendant ma jeunesse, j'ai entendu très souvent parler du retour de Jésus. Je me souviens d'une réunion où je me trouvais dans un grand rassemblement au niveau national pour une convention pendant l'été, et où l'un des orateurs avait prêché avec une telle force, une telle conviction sur le retour de Jésus, que nous étions tous convaincus que Jésus allait revenir pendant la nuit ou à la fin de la réunion, tellement le prédicateur était, enflammé, convaincu de ce qu'il disait, convaincu que plus rien n'empêchait Jésus de venir, et nous étions en 1967. Peut-être que la plupart d'entre vous étaient encore loin d'être nés, et c'était en 1967, j'étais jeune à l'époque. J'ai vieilli depuis, et ce n'est pas toujours le moment, ce n'est pas encore le moment. Mais cependant, bien des choses dans la Bible nous montrent que Jésus va bientôt revenir. Il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire d'un homme, et là je veux reparler de ce monde sans Dieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous verrons tout à l'heure les exemples de deux hommes que Jésus a mentionnés dans ce texte, à savoir Noé et Lot. Jésus a dit « Avant que je revienne, avant que mon royaume ne s'établisse partout sur terre, avant que Dieu ne règne vraiment sur terre, comme il règne au ciel, eh bien le monde vivra dans les mêmes conditions, la même situation que Noé et Lot. » C'est pour ça que nous allons voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Noé et Lot ont vécu pendant un long moment, pendant toute leur vie, dans un monde qui voulait ignorer Dieu. Noé, là où il habitait, nous ne savons pas exactement dans quelle ville il habitait, et Lot, dans la ville de Sodome. Le point commun entre ces deux endroits, c'est que les gens y vivaient sans penser du tout à Dieu. Ils vivaient comme si Dieu n'existait pas. Et nous verrons tout à l'heure ce qui caractérise cette société. Mais j'aimerais raconter d'abord cette histoire que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Un homme qui était chrétien, je dirais un brave chrétien, qui vivait une vie difficile dans l'Est de l'Europe, il y a une trentaine d'années, dans un pays où il n'était pas autorisé de parler de Dieu, dans un pays où les gouvernements faisaient la guerre, persécutaient les chrétiens et les envoyaient en prison, parfois même, souvent même les torturaient et parfois les menaient jusqu'à la mort. Dans un pays où cet homme avait appris à résister à cette persécution, à tenir bon. Cet homme avait fait la prison, il avait été torturé plusieurs fois par les autorités, pour le pousser, qui cherchait à le pousser à renoncer à sa foi. Et cet homme a tenu bon. Et puis lorsque la possibilité lui en a été donnée, lorsque, comme nous le disons, le rideau de fer est tombé, lorsque le mur de Berlin est tombé, cet homme s'est dit, mais peut-être que je pourrais émigrer en Occident. Et alors il a présenté sa demande et il a demandé à pouvoir émigrer aux États-Unis et on lui a accordé le visa et il est parti aux États-Unis. Et là, comme c'était un homme débrouillard, il a tout de suite monté son entreprise, parce qu'il paraît que là-bas c'est très facile, enfin c'est plus facile qu'ici. Alors il avait des idées, il avait de la volonté, il avait vraiment un don pour cela. Il a monté son entreprise et très vite son entreprise a eu du succès. Le chiffre d'affaires a continué à monter, à monter, à monter. Et un jour, sa fille est venue voir un pasteur, et c'est ce pasteur qui raconte l'histoire. Elle est venue voir un pasteur dans une église quelque part en Amérique, et elle a dit au pasteur, après le culte, est-ce que je pourrais vous voir, pasteur ? Oui, pas de problème. Il l'a donc reçu après le culte, et cette jeune fille a dit, je voudrais vous parler de mon père. Alors elle a raconté ce que je viens de vous raconter, et puis le pasteur lui a dit, mais pourquoi voulez-vous me parler de votre père ? Elle a dit, pasteur, j'aimerais que vous priez pour lui. Mais pourquoi dois-je prier pour lui, a dit le pasteur. Parce que maintenant que ses affaires marchent bien, maintenant que son commerce est florissant, maintenant que son chiffre d'affaires est toujours meilleur chaque année, il ne veut plus venir à l'église. Cette histoire est remarquable parce que cela nous montre que on peut très bien servir Dieu quand tout va mal. On peut très bien, et cet homme ne faisait pas cela seulement, cet homme avait subi la persécution, cet homme avait subi la torture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et lorsqu'il s'est trouvé dans un pays où il y avait toute liberté d'adorer Dieu, alors il s'est plongé dans les affaires, et comme les affaires marchaient, il n'avait plus le temps de venir à l'église. On peut facilement succomber à cette tentation. Quelqu'un a dit que souvent, ce que la persécution ne réussit pas à faire contre le chrétien, le matérialisme et l'opulence matérielle réussira à le faire. Et on connaît bien des exemples dans l'histoire. Lors d'un sondage qui a été fait en octobre 2010, dans une conférence évangélique à Lausanne, on a interrogé les gens sur les menaces qui pesait sur les évangéliques, sur les dangers qu'ils rencontraient pour leur foi. Et 71% ont dit c'est la philosophie qui renie l'existence de Dieu. Et la deuxième chose qui est venue dans le sondage, la deuxième menace importante, c'est le matérialisme. La troisième, c'est la violence et le sexe, comme nous l'allons voir à l'époque de Noé. Nous allons lire deux textes dans la Genèse. Nous allons lire deux textes dans la Genèse au chapitre 6. Au chapitre 6, Genèse chapitre 6, verset 5. Ce sont deux textes qui nous parlent de Noé, parce que la Bible dit que Noé vivait également dans un monde difficile. Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et au verset 9, nous lisons, toujours chapitre 6 de la Genèse, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Ici, nous voyons que l'époque de Noé est caractérisée par deux mots. Le premier mot qui caractérise cette époque, c'est le mot corruption. La terre était corrompue. Et le deuxième mot, c'est le mot « violence ». La terre était pleine de violence. La corruption et la violence étaient les deux caractéristiques de l'époque de Noé. Et pourtant, la Bible dit que Noé a été un homme intègre. C'est ce que nous avons lu il y a un instant. Noé était un homme juste et intègre, et la Bible précise « dans son temps ». C'est une bonne nouvelle quelque part, parce que cela nous montre que dans une époque de corruption et de violence, dans un monde violent et corrompu, il est possible de plaire à Dieu. Et pour nous chrétiens, cela est important. Cela est déjà un premier encouragement. Il est possible de résister à la corruption, il est possible de résister à la violence. Nous voyons souvent dans la Bible que des hommes ont résisté à cela. Nous avons également dans la Genèse l'exemple d'Enoch. Enoch qui a marché avec Dieu, alors dans un monde qui ignorait complètement Dieu. L'histoire de Noé est très intéressante parce que, comme nous le dit la lettre aux Hébreux, et nous pouvons le lire, encore deux, trois versets dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, où il nous est parlé de Noé. Je lis ceci, chapitre 11, verset 6, Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Noé était donc un homme intègre, et Dieu lui a parlé. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu peut nous parler. Quand nous marchons avec Dieu et que nous essayons de lui plaire, Dieu aura envie de nous parler. C'est le message, c'est un des messages les plus importants et les plus courants, les plus communs de toute la Bible. Dieu est un Dieu qui parle. Il parle de différentes manières. Il peut parler par des pensées qu'il met dans notre cœur, il peut parler par sa parole quand nous la lisons, il peut parler par des idées qu'il nous fait venir. Dieu parle. Et Dieu a parlé à Noé. Noé vivait dans le droit chemin. Noé faisait ce qui plaisait à Dieu. Et à un certain moment, Dieu a parlé. Nous ne savons pas comment Dieu a parlé à Noé. Mais la Bible dit, il a été averti par Dieu concernant ce qu'on ne voyait pas encore. Et lorsque Noé a été averti par Dieu, qu'a-t-il fait? Vous savez, on entend souvent parler de Dieu dans nos églises, quand on lit la parole de Dieu, quand on écoute un prédicateur, quand quelqu'un d'autre nous parle, ou quand on lit un bon livre chrétien, écrit par des chrétiens. Mais quand Dieu parle, quand Dieu a parlé à Noé, qu'a fait Noé? La Bible dit, nous venons de le lire, il a d'abord été saisi d'une crainte respectueuse. Il a ressenti quelque chose. Quand Dieu a parlé, quand il a lu ce que Dieu disait, ou quand il a entendu ce que Dieu lui disait, il a été saisi par une crainte respectueuse. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de lui. Craindre Dieu, c'est avoir vis-à-vis de lui un profond respect, un sentiment d'admiration, un sentiment de crainte, mais positif. Quand on a peur, on ne fait rien. Quand on a peur, on est comme paralysé. Mais quand on craint Dieu, on peut faire des choses. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est dit, Noé a été averti par Dieu, il a été saisi d'une crainte respectueuse, et il s'est mis à travailler. Être saisi d'une crainte respectueuse, c'est croire que ce que Dieu dit va vraiment se passer. La Bible, je l'ai dit tout à l'heure, nous annonce que Jésus va revenir. Il va revenir, peut-être bientôt, peut-être un peu plus tard, mais la Bible le certifie. Les anges qui ont parlé aux premiers disciples de Jésus, lorsque Jésus montait au ciel le jour de l'ascension, le jour de son ascension, les anges ont dit aux disciples, « Ce Jésus que vous voyez remonter au ciel, vous le verrez revenir de la même manière. » Et bien des livres de la Bible nous disent qu'un jour, Jésus va redescendre du ciel pour venir enlever tous ceux qui croient en lui et pour régner avec eux sur la terre. Donc Noé, lui, a reçu le message de Dieu. Il a été saisi d'une crainte respectueuse, c'est-à-dire qu'il a cru. Il a cru vraiment que ce que Dieu venait de lui dire était vrai et que cela allait s'accomplir. Or, qu'a fait Noé à ce moment-là pour bien montrer à Dieu qu'il croyait à sa parole? La Bible dit, il a construit une arche pour sauver sa famille. Pourquoi a-t-il construit une arche? Parce que Dieu lui avait dit, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Et tous ceux qui ne croiront pas ce que je vais faire, périront dans les eaux, dans l'inondation. Et tous ceux qui voudront croire pourront monter dans ton arche. Or, nous savons la suite de l'histoire. Noé a construit son arche. D'après le livre de la Genèse, il a fallu très longtemps, une centaine d'années, puisqu'à l'époque les hommes vivaient beaucoup plus longtemps, il a fallu très longtemps pour que l'arche soit bâtie. Mais pendant tout ce temps-là, certainement que ses voisins, ses amis lui ont demandé « Mais Noé, qu'est-ce que tu fais ?» Vous imaginez si demain, dans le jardin d'à côté de votre maison, si vous avez un jardin, et s'il y en a un autre à côté, un grand jardin, parce qu'il faut un jardin assez grand quand même, vous voyez votre voisin qui commence à bâtir un très très grand bateau. Je suis quasiment convaincu qu'à un moment ou un autre, vous allez lui dire « Mais qu'est-ce que tu construis là? Qu'est-ce que tu fais dans ton jardin ?» Et imaginez que votre voisin dit « Je construis un gros bateau parce qu'il y a un déluge qui va venir bientôt. » Alors évidemment, on connaît l'histoire du déluge, nous. Mais imaginez ce que les voisins et les amis de Noé ont dû penser quand ils l'ont vu construire cette arche. Certainement qu'ils ont dû se moquer de lui. Ils ont dû lui dire « Mais un déluge, ça n'a jamais existé. » Et vous savez bien, l'histoire nous l'a montré, que ce qui n'a jamais existé n'existera jamais. C'est ce que les gens se disent. Mais il y a bien des choses qui ne sont jamais arrivées et qui arrivent quand même un jour. Parce que le monde n'est pas astreint à des règles aussi immuables que cela. Il y a des règles immuables, mais il y en a d'autres qui ne sont pas immuables et qui ne sont même pas des règles. Noé avait commencé à construire ce bateau. Pourquoi ? Parce que Dieu lui avait parlé. Et certainement qu'il a dû expliquer à ses voisins, ses amis, que Dieu lui avait parlé. Alors évidemment, vous imaginez la tête des voisins. Depuis quand Dieu parle-t-il aux hommes ? À l'époque, ce n'était pas chose courante. Noé avait entendu la voix de Dieu. Il était convaincu que c'était bien Dieu qui parlait. Il a été saisi d'une crainte respectueuse pour Dieu. Il a cru ce que Dieu disait. Il a cru que cela allait se produire. Et il a construit une arche. Vous savez, dans un monde difficile, dans un monde violent et corrompu comme celui de Noé, dans lequel vivait Noé, il est toujours possible de penser à Dieu, d'entendre Dieu parler et d'obéir à Dieu. Il est toujours possible de craindre Dieu d'une manière respectueuse, et quand on craint Dieu d'une manière respectueuse, on se met à construire. L'arche de Noé est un symbole, une image de l'Église. Souvent, les prédicateurs, les enseignants de la Bible ont trouvé une grande ressemblance entre cette histoire et l'histoire de l'Église à la fin des temps. Dieu nous demande de construire son Église. Dieu nous demande d'édifier son Église. Souvent dans ses épîtres, l'apôtre Paul parle de cela. Il dit « Nous devons faire des choses qui édifient les autres, qui édifient les autres croyants. » Par notre comportement, nous devons avoir un comportement constructeur, édifiant, parce que nous édifions l'Église de Jésus-Christ, qui elle aussi nous permettra d'échapper, si nous en faisons partie, à la catastrophe qui s'approche. Noé s'est bien comporté, mais il est bon maintenant, avant de terminer, de voir pendant quelques instants, et je vais essayer de résumer l'histoire de ce deuxième homme, parce que Jésus a dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Luc, Jésus a dit « Ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même au temps où il reviendra, où il établira son royaume. » Et Jésus dit « Au temps où Lot vivait sur terre, c'était la même situation. » Il y a deux points communs, il y a des points communs. Jésus dit « Pendant l'époque de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et à l'époque de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. On peut sous-entendre achetaient, vendaient. Qu'est-ce qu'il y a de mal à manger et à boire. Est-ce que récemment vous avez mangé et bu ? Oui, il y a environ une heure ou deux. Il n'y a rien de mal à cela. D'ailleurs, si nous ne mangeons pas, si nous ne buvons pas, nous ne vivrons pas longtemps. Est-ce qu'il y a du mal à acheter et à vendre ? Il n'y a rien de mal. Est-ce qu'il y a du mal à se marier et à marier ses enfants ? Non. En fait, Jésus mentionne ici uniquement des activités humaines qui sont tout à fait légitimes. Alors où est le problème ? Pourquoi est-ce que Jésus dit, à l'époque de Noé, avant la catastrophe, à l'époque de Lot, avant la catastrophe, et dans les derniers temps, avant que je revienne, avant la catastrophe qui l'accompagnera à son retour, pas pour ceux qui croient en lui, mais pour les autres, Jésus dit, le point commun à ces trois époques, c'est que les gens mangeaient, buvaient, ils mangeront, ils boiront, ils achetaient, ils vendaient, ils achèteront, ils vendront, et ils se marieront, ils marieront leurs enfants, et il en sera de même jusqu'au bout. Ce sont des activités que l'homme a toujours pratiquées pendant toute sa vie, depuis l'aube de l'histoire. Et il en sera évidemment ainsi jusqu'à la fin de l'histoire de l'homme. Mais Jésus veut simplement faire remarquer que ceux qui faisaient cela, ou plutôt une partie de ceux qui faisaient tout cela, ne pensaient qu'à cela. Le but de leur vie, c'était uniquement cela. Qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je vais boire ? Jésus a dit d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, que ce sont les non-croyants qui se préoccupent toujours de cela. Et à toute époque, cela s'est produit. Les gens mangeaient, buvaient, les gens se demandaient ce qu'ils allaient manger, boire le lendemain, les gens se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir acheter, ils vendaient aussi, et puis ils se demandaient avec qui ils allaient se marier, si c'est légitime ça aussi. Et puis après, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, cela aussi c'est légitime. Mais toutes leurs pensées, c'est ce que dit la Bible. Toutes leurs pensées étaient tous les jours concentrées sur cela. Et ils ne pensaient pas à Dieu. Et Lot est un cas très intéressant dans la parole de Dieu. On ne va pas lire l'histoire de Lot parce qu'elle tient en plusieurs chapitres, mais je vais la résumer. Vous la connaissez sans doute. Lot était le neveu d'Abraham. Il avait quitté la Mésopotamie avec son oncle et sa tante. Et puis, je résume, ils étaient arrivés dans le pays, dans la Palestine, dans le pays d'Israël. Et là, ils se sont installés. Et ces deux hommes, Abraham et son neveu Lot, avaient beaucoup de biens. Ils étaient riches. Ils avaient beaucoup de troupeaux, des milliers de bêtes. Et un jour est arrivé où il y avait tellement de bêtes, ils avaient tellement de troupeaux, excusez-moi l'expression, qu'ils se marchaient sur les pieds. Pas eux, mais peut-être les troupeaux. Ils allaient brouter dans les mêmes endroits et après peut-être qu'ils ne s'y retrouvaient plus. Enfin, ça devenait compliqué. Alors, l'oncle Abraham a dit au plus jeune, son neveu Lot, il dit, il faut que nous nous séparions parce que nous n'avons plus de place pour tous les deux. Il ne faut pas se disputer, nous sommes frères, nous allons nous séparer. Et alors, il a dit à son neveu Lot, choisis l'endroit où tu veux t'installer. Il était gentil, l'oncle, hein. Et Lot a regardé, alors moi j'aurais été Lot, il me semble que j'aurais dit, écoute tonton, c'est toi qui choisis, c'est quand même toi l'aîné, hein, ça se passe comme ça partout. Mais Lot ne s'est pas posé de questions, il s'est dit, puisque mon oncle me laisse choisir, je vais choisir. Et alors très vite il a regardé le paysage autour, j'imagine qu'ils étaient sur une colline, et puis il a vu dans le fond là-bas une vallée toute plate. C'est plus simple quand c'est tout plat. Hein. Et alors il a vu cette vallée toute plate qui était verdoyante. Il y avait une rivière, il y avait le fleuve, le Jourdain qui coulait. Il s'est dit, mais si c'est tout verdoyant, c'est que dans cette région, tout pousse facilement. Elle est bien arrosée, cette région. Et c'est vrai qu'il est dit que avant la destruction de Sodome et Gomorre, cette région-là, cette plaine du Jourdain, était comme un jardin de l'Éternel, comme un petit paradis. Alors Lot n'a pas réfléchi longtemps. Vous savez, si nous avions le choix entre une terre aride et montagneuse et une propriété sur l'herbe plate et verdoyante, qui parmi nous choisirait la montagne rocailleuse ? Franchement. Alors Lot a choisi et il a pris la plaine verdoyante. Et puis il est parti avec ses troupeaux, sa femme, ses deux filles, et ils sont partis vers cette région qu'ils avaient aperçue de loin. Et lorsqu'ils sont partis, Dieu a dit à Abraham, « Abraham, lève les yeux. Regarde là-bas, toute cette terre, toute cette montagne, toutes ces collines. Cette terre, je vais te la donner. Et elle sera pour toi de manière définitive. Pour toi et pour tous tes descendants après toi. Allez, lève-toi et vas-y, installe-toi là-bas. » Abraham n'a pas protesté, il n'a pas dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de faire mon neveu, Lot ? Tu as vu ce qu'il a pris ?» Non. La Bible dit simplement « Dieu, aux yeux de Dieu, pardon, aux yeux de Dieu, la région de Sodome et de Lot était peuplée par des gens qui étaient de très grands pécheurs devant Dieu. » Il n'y avait aucun problème avec le territoire, il n'y avait aucun problème avec le paysage et avec la région. Vous savez, si l'herbe pousse, c'est que Dieu l'a fait pousser. S'il y a de la pluie de temps à autre, c'est que Dieu l'a fait tomber. Une terre verdoyante, en soi, n'est pas mauvaise. Si vous habitez un endroit verdoyant, en région parisienne, ça doit se trouver. Mais si vous avez un jardin qui est bien vert, bon, il est peut-être blanc aujourd'hui, mais il sera vert dans quelques jours, eh bien, il n'y a rien de mal à cela. Tout cela est légitime aussi. Mais ce que Dieu avait vu, c'est ce que Lot n'avait pas demandé à voir. Lot aurait pu dire... Abraham, est-ce qu'on peut prier Dieu qu'il me conduise là où il veut que j'aille ? Et nul doute que Dieu ne l'aurait pas conduit à Sodome, mais ailleurs. Mais Lot ne s'est pas posé la question. Lot s'est installé dans la région, dans la banlieue de Sodome, et la Bible dit bien, les hommes de Sodome, les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs devant l'Éternel. Très vite, Lot a commencé à avoir des problèmes. Très vite, il a découvert que cette ville était une ville corrompue. Une ville où on ne pensait qu'à manger, boire, se marier, marier ses enfants, acheter, vendre, et les pensées de l'homme étaient tout occupées, accaparées par cela. On ne pensait jamais à Dieu, on ne croyait même pas qu'il existait. Et alors, petit à petit, la Bible nous dit que le péché de Sodome, c'était qu'il était riche. C'est pas qu'il était riche, mais dans Ézéchiel, il y a un texte que je n'ai peut-être pas trop le temps de lire, où il est dit ceci, « Le péché de Lot... » Pardon, le péché de Sodome, c'était qu'au départ, il était devenu riche. Les habitants de Sodome étaient devenus riches. Vivant dans une région où tout pousse facilement, ils avaient vite fait des affaires. Tout était simple. Il n'y avait pas à travailler dur pour gagner bien sa vie. Mais ils sont devenus progressivement insouciants. Et surtout, ils ont commis un crime devant Dieu. C'est qu'ils ont oublié de penser à ceux qui n'avaient rien, à ceux qui ne vivaient pas dans la richesse. Dieu a reproché à Sodome plus tard d'avoir oublié les pauvres et ceux qui n'avaient rien. Alors Dieu dit, Sodome est devenue riche, Sodome est devenue insouciante, Sodome n'a pas tendu la main aux plus pauvres, et à la fin, ils sont devenus arrogants et immoraux. Ils ont sombré vraiment dans l'immoralité. C'est pour cela que Dieu a dû intervenir pour détruire cette ville. Et la Bible dit que lorsque Dieu a envoyé ses serviteurs, ses anges, pour avertir Lot qu'il courait un grand danger dans cette ville où l'on ne pensait qu'à vivre et à manger et à boire et à faire la fête, Dieu a dit, par l'intermédiaire de ses deux anges, « Lot, lève-toi et pars ». Emmène ta femme, tes filles, tes gendres et sortez tous avant la catastrophe. Mais la Bible dit que quand Lot a parlé à ses gendres, ils ont vraiment eu l'impression qu'il plaisantait. Ils n'y croyaient pas, pas plus que les contemporains de Noé y croyaient à son histoire de l'arche. Les gendres ont tout de suite dit « c'est une blague, c'est n'importe quoi ». Alors, Lot a essayé de convaincre sa femme et ses filles, et c'était assez difficile. Et la Bible nous dit même que lorsque les anges ont voulu faire comprendre à Lot qu'il fallait partir, Lot traînait les pieds. Lot n'avait pas envie de partir. Alors il est dit dans la Genèse que les anges ont attrapé Lot par la main et l'ont tiré pour le faire partir. Pourquoi cela ? Parce que Lot s'était attaché à cette ville où les gens passaient toute leur vie dans le matérialisme, comme on dirait aujourd'hui. Il ne pensait qu'à cela, qu'aux choses de la vie de tous les jours, qu'à manger, qu'à boire, qu'à acheter, qu'à vendre, qu'à vivre une vie heureuse et à ne rien penser, à ne pas penser aux plus mal lotis, aux plus pauvres. Alors Lot s'était habitué et il a fallu vraiment que les anges insistent pour le faire sortir et pour l'emmener. Et vous savez, même sa femme, pendant qu'ils ont pris la fuite, sa femme a eu beaucoup de regrets et s'est retournée pour voir cette ville qu'elle quittait à regret, visiblement. Et vous savez ce qui lui est arrivé. Lot, et je conclue en disant cela, Lot, à la différence de Noé, manquait de conviction. Noé a entendu Dieu lui parler, tout de suite il a été saisi d'une crainte respectueuse et il a conformé sa vie à ce que Dieu avait dit. Et il s'est mis à construire. Lot, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, lui aussi, par l'intermédiaire des anges, n'a pas été saisi d'une crainte respectueuse. Il a été surtout saisi de regret de devoir quitter la vie qu'il menait à Sodome au milieu d'un monde corrompu. Et le résultat, c'est que Lot, par ses moyens, a tout perdu. Ce qu'il croyait pouvoir avoir au départ aussi facilement, il l'a perdu en quelques années sans doute. Et en partant, il a perdu ses gendres, il a perdu sa femme, et d'une certaine manière, à cause du péché qu'elles ont commis ensuite, il a perdu moralement ses filles. Comment vivre, et je conclue, comment vivre dans un monde sans Dieu? Eh bien, nous, chrétiens, savons que même si nous vivons dans un monde qui nous donne l'impression de vivre sans Dieu, nous sommes avec Dieu. Comme disait un grand homme de Dieu, le plus beau dans toute l'histoire, dans toute notre histoire en tant que chrétien, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec ceux qui croient en lui, Dieu est avec ceux qui entendent sa voix et qui conforment leur vie en étant saisis d'une crainte respectueuse à son égard, qui conforment leur vie à sa parole. Alors que Dieu nous aide dans ces temps difficiles dans lesquels nous vivons, peut-être pas difficiles au niveau de la persécution, mais difficiles parce que les tentations sont nombreuses de vivre qu'en pensant à ces choses auxquelles ces gens pensaient. Que Dieu nous aide à être non pas des lotes qui se laissent envahir progressivement par ces choses, légitimes en elles-mêmes, mais qui, lorsqu'elles occupent toute notre pensée, ne sont plus légitimes dans cet accaparement. Et soyons plutôt des Noé qui feront preuve d'une crainte respectueuse tous les jours, en vivant d'une manière qui plaît à Dieu, et qui pourront ainsi monter dans l'arche. L'arche que la Bible appelle l'arche du salut, à savoir l'Église à laquelle Dieu nous demande d'appartenir, et à laquelle Dieu nous demande d'être fidèles, tout en lui étant fidèles à lui par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse.